Merci de nous rejoindre sur la radio africaine. C'est parti pour la partie prévention.
Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La crise sanitaire aurait un grand impact sur la santé mentale et tout le monde est concerné. La situation est encore plus inquiétante étant donné que le système de santé n'est pas prêt à y faire face. De nombreuses personnes issues des diasporas africaines ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. Isolement, souffrance liée à la perte de proches qui n'ont pas pu être rapatriés au pays. La surmortalité due au virus a atteint des proportions beaucoup plus élevées chez les personnes nées hors de France, selon une étude de l'INSEE. En mars et avril, la hausse des décès dus à la Covid-19 a été deux fois plus forte pour les personnes nées hors de France que pour les natifs du pays. Nous en parlons avec nos invités ce matin. Arnaud Weiss nous rejoint. Il est le directeur général du COMED. Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa Radio pour cette émission. Le COMED, c'est le Comité pour la Santé des Exilés. C'est une association française de soutien aux migrants. Nous rejoint également sur le plateau Jean-Oscar Macasso. Il est ethnopsychologue. Il est le directeur de l'association Maison Soundiata Keita qui vient aussi en aide aux migrants. Et au téléphone d'Africa Radio, nous accueillons Seydina Omar Ba, il est membre du collectif des Sénégalais de la diaspora. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer avec vous, Jean-Oscar Macasso. Oui, vous recevez de nombreux patients issus des diasporas africaines. Alors, de quelle manière la crise sanitaire a eu un impact psychologique ou psychiatrique sur ces personnes ?
Oui, merci de m'avoir invité sur le plateau. Et en même temps, je dirais que au-delà des problématiques économiques et financières, la population actuellement va mal parce que nous voyons depuis le confinement, depuis ce passage où il y a les hésitations, on ne sait pas là où on va, et le plus souvent les patients que je reçois notamment dans mon centre et relèvent beaucoup de problématiques. Ça veut dire que en ce moment certains ils ont perdu leur travail. Ils ont perdu leur travail,
oui.
Et en même temps, ils sont dans une situation vraiment de surendettement. Et au-delà de ça, il y a d'autres qui sont dans l'isolement,
oui.
Parce que certains se trouvent seuls, ils n'ont pas de famille autour d'eux, et en même temps, ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, même pour questions relationnelles, ils ont du mal à rencontrer vraiment la communauté. Donc, si ceci impacte psychologiquement, ces patients que je reçois, et d'ailleurs même, je peux aussi dire par là que non seulement ces patients, mais je reçois aussi les patients qui sont de passage en mer.
C'est vraiment
ceux qui traversent vraiment la mer et que aujourd'hui je reçois pas mal ceux qui sont en demande d'asile aussi parce que ces personnes là ou bien ces patients qui viennent me voir, ils ont plusieurs vraiment problématiques. Donc je pense qu'on va continuer à les énumérer aujourd'hui. Donc il y a cette détresse qui est là,
retard administratif
très important lié à toute cette conjoncture aujourd'hui. Et c'est là vraiment la difficulté, parce que je reçois certains, d'ailleurs même, on en parlera, il y a un monsieur que j'ai reçu là, il y a quelques jours, qui me dit, monsieur, j'avais deux travails, parce que ici, vous savez, quand on arrive ici, et c'est le travail qui rythme notre vie.
Oui.
Et depuis que j'ai arrêté le travail, je suis perdu. Je n'ai plus, ça veut dire que je ne mange même plus. C'est ça qu'il me disait, il me dit qu'il ne mangeait même plus. J'ai dit, mais pourquoi vous ne mangez plus? Il dit, vous pouvez aller dans des associations, il me dit non. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir le matin, aller travailler, à la fin du mois, pour que je reçoive quelque chose. Il dit, c'est quelque chose pour moi, je ne dors plus. Alors, il a commencé à pleurer devant moi. Donc, vous voyez déjà, normalement, ce passage-là qui est pour nous tous aujourd'hui, ce passage vraiment, dans la pandémie, qui relève vraiment la souffrance et vraiment une aide. Donc, nous tous, nous devons vraiment faire une démarche pour pouvoir vraiment les accompagner. Alors, je suis lui aussi, ça veut dire que cette peur où certains patients, ils ont peur même de leur propre vie parce qu'ils sont en insécurité.
Ouais.
L'insécurité les renvoie à la mort et même à la mort aussi de leurs proches qui restent dans leur pays. Donc, cet entretien vraiment de peur, de panique, aujourd'hui, ce sont les patients qui ne vont pas bien du tout. Alors, d'autres qui décompensent parce que d'autres regrettent même en disant « mais pourquoi nous sommes là ?» Alors, quand je vous dis ça, parce que je reçois ces patients de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte.
Oui.
Tout confondu. Alors, j'ai la chance que je travaille avec les institutions. Parce que ces familles viennent, ça veut dire qu'on parle bien devant des institutions. Et donc, les institutions constatent la difficulté, la souffrance, la détresse normalement psychologique de ces familles, normalement dans leurs rencontres quotidiennes. Parce que aujourd'hui, et ces personnes, ils sont dans une situation normalement de troubles, vraiment de sommeil, et que je constate constamment, et que et certains ils se trouvent là. Je suis parti vraiment visiter un patient normalement dans un centre psychiatrique parce que aujourd'hui il est en train de décompenser. Alors, les institutions sont obligées d'appeler son oncle pour venir, pour que j'aille normalement le rencontrer. Il y a certains qui ne parlent pas la langue, qui sont là et qui sont dans une sorte vraiment de, presque, je dirais, d'errance physique et psychique. Mmh. D'où ces constats nous amènent aujourd'hui à dire qu'il y a l'impact exactement de tous ces passages de la pandémie et sur ces familles ou bien ces patients que je reçois normalement dans le centre.
Arnaud Weiss, des statistiques ethniques publiées récemment en Grande-Bretagne ont montré que les migrés et que les émigrés étaient très touchés par la Covid-19. Qu'en est-il exactement de la situation en France ? A-t-on des données ?
Oui, bonjour. Malheureusement, on est dans une situation tout à fait équivalente en France et dans la plupart des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelque chose qu'on connaît malheureusement depuis longtemps, c'est qu'à chaque épidémie, c'est les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus impactées. Or, les immigrés, et en particulier les exilés récemment arrivés, sont parmi les plus grandes victimes des inégalités sociales de santé. Et puis après, vous l'avez dit en introduction, les chiffres qu'on commence à avoir le confirment, notamment avec des taux de mortalité qui sont deux fois plus élevés chez les personnes nées à l'étranger que chez les autochtones.
Alors, en tant que directeur du COMED, vous avez été amené à aider des personnes qui ont pu avoir des difficultés de compréhension du système de santé français et des consignes spécifiques liées à la prise en charge des symptômes dus à la Covid-19. Comment faites-vous pour aider les personnes qui rencontrent ces difficultés en ce moment ?
Oui, alors ça, c'est une difficulté qui a été renforcée, évidemment, par la situation actuelle, mais qui existait avant l'arrivée de l'épidémie. Les personnes dans les consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques du COMED, pour des personnes récemment arrivées en France, demandeuses d'asile, étrangers en séjour précaire, les mineurs non accompagnés et qui viennent de très nombreux pays, la question de la langue est une question essentielle, et notamment du recours possible ou non à un interprète professionnel dans les consultations. Or, malheureusement, dans la plupart des services de soins et de prévention, il n'y a pour l'instant pas du tout assez, voire pas du tout, de recours à des interprètes professionnels. Donc la solution, c'est évidemment celle-là, à chaque fois que c'est possible. Au COMED, on travaille avec des interprètes professionnels, et ça change tout. À partir du moment où on peut se comprendre dans la langue, le message passe. Encore faut-il, d'une part, avoir des interprètes, des budgets, mais également pouvoir le faire en présentiel, idéalement, et sinon, à défaut, par téléphone. Et c'est là que l'épidémie de Covid est venue rajouter, notamment pendant les confinements, les périodes de confinement, est venue rajouter une difficulté supplémentaire avec un certain nombre de patients qui n'ont pas pu se déplacer, en tous les cas dans les premiers temps, et pour lesquels, par exemple, ce qu'on a fait au COMED, c'est qu'on a mis en place tout de suite des consultations par téléphone avec interprète dans des systèmes de conférences téléphoniques à 3 personnes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de la prise en charge individuelle, qui permet, quand on fait ça, de pallier aux difficultés de communication. Et après, c'est tout l'enjeu aussi des documents, des supports d'information, des publications, notamment réalisées par Santé publique France, en langue étrangère, hein, bilingue, qui permettent aussi de pallier en partie le manque de recours à l'interprète professionnel dans les services de santé.
Alors, vous parlez des barrières de la langue, mais quelles étaient les autres principales difficultés rencontrées par les personnes qui sont venues vers vous pendant cette période ?
Eh ben, mon collègue l'a très bien dit juste avant moi. Le problème, c'est que, en tous les cas, pour les personnes exilées récemment arrivées en France, c'est un cumul de facteurs de vulnérabilité qui préexistaient à la pandémie et qui se sont aggravés pendant la pandémie. On peut les reciter rapidement. D'abord, l'exil, c'est une forme de migration contrainte, non choisie, dans des conditions souvent dramatiques, des ruptures, des deuils, des pertes.
Oui.
C'est tout le parcours, c'est toutes les violences, d'abord subies dans le pays d'origine, pendant le parcours jusqu'à l'Europe et qui continue en France. Hein, par exemple, un chiffre dont on témoigne souvent au Comed, les femmes enceintes qu'on suit au Comed, une fois sur cinq, leur grossesse est consécutive à un viol en France, hein, qui est directement lié à la précarité de l'hébergement, enfin aux violences hein, du système, mais dans une telle situation de précarité de l'hébergement que les femmes en question sont soumises à des violences possibles en échange d'hébergement.
Notamment le VIH.
Exactement, avec toutes les conséquences psychologiques et physiques que ça peut entraîner. Une situation de très grande précarité sociale, et ça c'était déjà avant l'épidémie, et qui s'aggrave depuis 20 ans avec des politiques de restriction progressive d'accès aux droits pour les étrangers, et en particulier à l'encontre des demandeurs d'asile. Et donc, tout ça produisait déjà le fait que même si la plupart des personnes dont on parle sont finalement, il faut toujours se rappeler que c'est des survivants compte tenu de ce qu'ils ont eu à traverser pour arriver jusqu'ici, mais pour lesquels la santé est particulièrement attaquée par ces facteurs de vulnérabilité, notamment ce qui explique la grande fréquence des psychotraumatismes dans cette population. Alors avec la pandémie, les choses se sont encore aggravées, effectivement, sur le plan social, administratif, juridique et psychique, mais peut-être qu'on va développer dans la suite.
Seydina Omarba, rappelons que vous êtes membre du collectif des Sénégalais de la diaspora de France. Est-ce que le déracinement s'est beaucoup plus fait sentir hein, pour les Sénégalais de France durant cette crise sanitaire, et notamment par le fait qu'ils ne pouvaient pas se rendre au pays autant qu'ils le souhaitaient ?
Seydina Omarba, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, oui, tout à fait. Donc, le déracinement, d'abord, faut considérer que quand on quitte son pays, on est déjà vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qui est la chose la mieux partagée hein, entre les immigrés. Tout immigré vous dira qu'il a perdu, ou en tout cas, il a laissé une part de lui-même dans son pays d'origine. Et quand une crise survient comme ça et met en cause tout un ensemble de choses sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan familial, évidemment, c'est complètement dévastateur. Et la crise a été une surprise pour la diaspora sénégalaise, par exemple. Le problème fondamental auquel ils ont été confrontés, c'est que non seulement ils ne pouvaient pas se rendre au pays, mais ils étaient aussi pointés du doigt, car au Sénégal, le premier cas qui a été enregistré était un cas dit importé. Et quand on dit cas importé, c'est que c'est un Sénégalais de l'extérieur qui l'a amené au pays. Et donc, au déracinement, s'est ajoutée une stigmatisation qui a distendu de plus en plus les liens avec les pays. On ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il y a la crise, et on avait peur aussi d'essayer de s'y rendre parce que on avait peur d'être pointé du doigt. Et ça, c'est un des problèmes fondamentaux auxquels la diaspora sénégalaise particulièrement a été confrontée.
Seydina Omarba, est-ce que vous avez aussi rencontré au sein de la diaspora sénégalaise de France beaucoup de vos compatriotes qui ont fait des dépressions, eu des crises d'angoisse en raison de cette crise sanitaire, ont eu peur de perdre leur emploi? Est-ce que vous avez recueilli beaucoup de témoignages de membres de la diaspora sénégalaise?
Oui, j'ai la chance, ou alors la malchance même, d'être monté au créneau quand il y a eu, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, quand il y a eu cette histoire des corps, et on avait mis en place un pôle social et psychologique chargé de recueillir les témoignages ou en tout cas les appels des Sénégalais qui avaient besoin de soutien, de conseils. Et bizarrement, en temps normal, on ne parle pas, on n'est pas trop psychologique, entre guillemets. On ne se dit pas les choses, mais bizarrement, on a constaté que beaucoup de Sénégalais appelaient, non pas parce qu'ils avaient des problèmes liés à la perte d'un membre de leur famille, mais pour simplement parler à quelqu'un, pour simplement s'ouvrir. Et surtout des étudiants. Les étudiants ont été particulièrement concernés.
Touchés par cette crise, oui.
Touchés, oui. On a vraiment constaté un gros problème chez un certain nombre d'étudiants. parce que ces étudiants, faut pas oublier que, bon, c'est des étudiants, mais la plupart du temps, ils essayaient de s'en sortir en faisant des petits boulots. Et tous ces petits boulots, qui généralement sont réalisés dans la restauration, dans l'hôtellerie, et tous ces services à la personne, ont stoppé du jour au lendemain. Donc, ils se sont retrouvés face à des problèmes financiers qui se sont transformés en problèmes sociaux, en problèmes psychologiques. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu des pressions, mais en tout cas, moi, je constate qu'il y en a eu, mais les personnes avec qui j'ai discuté nient cette évidence-là. Ils n'acceptent pas qu'ils sont en dépression, mais à les voir et à les entendre, on sait bien qu'ils sont complètement à la rue, hein, sans jeu de mots. Donc effectivement, nous avons été confrontés à des problèmes sérieux, et jusqu'à présent, même si on a déconfiné un moment, le reconfinement, l'absence de perspective, l'absence de vision sur ce qui va arriver est complètement terrible chez un certain nombre de nos compatriotes, effectivement.
Jean-Oscar Macasso, est-ce que parmi les préoccupations, les inquiétudes de vos patients, il y a la mort et la peur de mourir loin de chez soi, loin de son pays ?
Évidemment, vous savez, tout patient migrant espère toujours, peut-être un jour, de retourner mourir autour des nomades des siens. Bon, c'est ça que je constate. Et ce moment-ci, c'est très difficile. Donc, j'ai essayé d'énumérer tout à l'heure. Et en même temps, je suis confronté au travail normalement quotidien avec ces patients qui, malheureusement, c'est pas facile vraiment à pouvoir les accompagner aussi, parce que il y a une douleur. Il n'y a pas la famille, ce sont les personnes seules, ils sont isolés. J'ai fait allusion tout à l'heure où la plupart de certaines familles qui sont plus ou moins vulnérables, ils ont aussi des maladies chroniques, hein, ils se retrouvent dans des chambres seules, parce que moi j'ai des patients qui font des dialyses, qui se retrouvent seuls, isolés, et ils n'ont aucune famille autour. Et donc parfois je dialogue un peu, j'essaie de travailler avec les psychologues un peu pour dire mais c'est une personne qui est seule, qui ne dit rien, comment on peut faire? Donc, en ce moment-là, soit je me déplace, parce que, bon, moi, je me permets de le faire maintenant, parce que je pense que le psychologue ne peut plus rester autour de son bureau pour se dire que, bon, voilà, en ce moment de la pandémie, des difficultés, et moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Il y a les médecins qui se déplacent pour aller voir les familles, et pourquoi pas les psychologues qui peuvent aussi se permettre, ou bien il faut qu'il y ait vraiment une solution là-dessus. Alors, moi, je me déplace pour aller rencontrer parfois, normalement, ces patients-là pour essayer un peu de discuter avec eux. Mais ce que vous dites là, j'ai eu vraiment là récemment un jeune, et donc on m'a fait appel. C'est un jeune qui est venu faire les études, un jeune qui a 16 ans. Il est parti de chez lui, apparemment très brillant. Un des directeurs de cette école constate que le jeune ne va pas. Il y a les notes qui baissent. Il essaie de se renseigner. Bon, heureusement que c'est dans une institution bien précise. Et puis, on lui dit, bon, écoutez, essayez d'appeler le nom Dr. Macasso pour essayer de voir comment aider ce jeune-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce jeune, il a perdu son père pendant ces périodes-là. Ça fait 2 mois. Il fallait prendre une décision pour qu'il y... Il aille pour l'enterrement de son père. Mais il était question, exactement, notamment de tout ce qui... Voilà, tout, la pandémie, ça, le virus, tout ça. Et puis, notamment ce directeur, on veut le protéger. En disant que c'est un excellent. Il est dans une classe supérieure, 16 ans. Hein, il est venu ici pour faire les études. Et donc, il y avait le directeur qui se pose la question, est-ce qu'on doit le laisser aller à l'enterrement de son père? Est-ce qu'il doit rester pour essayer de le soutenir psychologiquement? Alors, on me pose la question. Moi, j'ai dit, mais il faut que je rencontre nous-mêmes ces jeunes. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer parce que ces jeunes-là allaient très mal. J'espère, je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour qu'ils aillent voir au moins l'enterrement de son père. Pourquoi j'ai dit ça? On a beau dire qu'on peut les soutenir psychologiquement. Vous voyez, c'est ça qui est très difficile pour nous. Et en certains moments, il y a des testaments qui se font dans la famille. Peut-être ce père voulait voir presque pour que son fils puisse l'enterrer aussi. Et malgré qu'on pourra normalement l'amener un soutien, il y aura toujours une parole, un vide qui restera traumatique, bien entendu, une perte, un vide que ça serait difficile normalement de le combler. Vous voyez, donc je vous donne tout le monde cet aspect. Ça, c'est le premier aspect, si vous me permettez.
Oui, rapidement.
Le deuxième cas, il y a une fille aussi dans une faculté de médecine qui venait de perdre aussi son père. Mais c'est un, on dit c'est un demi-père, ça veut dire que son vrai père était décédé et c'est le frère normalement de son père qui l'a aidé. Il est décédé non récemment, c'était aussi le même cas. Donc c'est pour vous dire qu'en ce moment, je pense que c'est très difficile aussi de venir en aide normalement ces difficultés normalement qui se rajoutent.
Très bien. Sédina Omarba, vous vous êtes mobilisée hein, il y a plusieurs mois pour permettre le rapatriement des corps de Sénégalais décédés en France. Alors ça a été un long combat de votre part. Les autorités sénégalaises ont autorisé hein, le rapatriement des corps de la diaspora. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui ? Est-ce que les Sénégalais de la diaspora peuvent plus facilement rapatrier leurs morts au pays aujourd'hui ?
Ça se passe très bien. Bon, ce qui nous le confirme, c'est que on n'a pas de signalement de problème à ce niveau. Et s'il y a un problème, on le sait, parce que nous restons quand même en veille depuis que le l'État du Sénégal a autorisé le rapatriement des corps. Et ça se passe tellement bien que je disais qu'il n'y a pas de signalement. Mais il y a eu quand même des problèmes parce que quand la décision a été prise de lever cette mesure d'interdiction, certains ont considéré que l'État du Sénégal avait failli à sa mission de protéger le Sénégal parce que la décision avait été prise parce que l'État avait considéré qu'il y avait un danger, un risque de laisser venir les corps. Et il y a même eu des altercations, pas contre des corps venus de l'étranger, mais contre des individus qui sont décédés au Sénégal du Covid et qui voulaient être, et qui devaient être enterrés dans des cimetières de leur quartier, quoi. Et les populations se sont dressées pour s'y opposer. Mais cela n'a pas touché les corps qui venaient de la diaspora, parce que nous avons su démontrer que ces corps étaient préparés, étaient sécurisés, de telle sorte qu'ils étaient sans danger pour les populations et même pour ceux qui les manipulent. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal, parce que peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, les chiffres qui sont donnés en termes de décès tous les jours par le ministère de la Santé sont largement sous-évalués, parce que les morts sont ceux qui ont été enregistrés à l'hôpital. Mais meurent tous les jours des dizaines, voire des centaines de personnes au Sénégal dans l'anonymat le plus total. Et le danger est que ces corps-là sont traités de manière habituelle, sans précaution. Et donc, nous avons su démontrer que la diaspora était capable de protéger le Sénégal mieux peut-être que le système de santé au Sénégal. Mais donc, nous n'avons pas pour l'instant de problème à ce niveau-là, en tout cas, pour le rapatriement des corps.
Alors Arnaud Weiss, le COMED, on l'a dit, aide aussi les personnes récemment arrivées, hein, des réfugiés, mais ceux qui vivent dans des campements actuellement et qui sont aussi confrontés à la crise sanitaire, comment les aidez-vous ?
Bah, par deux méthodes. Nous, ce qu'on a fait pendant, même depuis le premier confinement, c'est qu'en tant que service de santé, on a maintenu ouvert l'ensemble des activités, hein, à la fois pour continuer d'accueillir ceux qui parvenaient jusqu'à nous pour les consultations, si possible en présentiel, avec évidemment le respect des mesures barrières. Mais aussi, j'en disais un mot tout à l'heure, en développant beaucoup les consultations téléphoniques avec interprète chaque fois que nécessaire. Pendant le premier confinement, par exemple, pendant un mois, les trois quarts des consultations qu'on a effectuées, c'était par téléphone, avant que les personnes ne, majoritairement ne reprennent le chemin des soins. Mais aussi, et le docteur Macasso l'a dit également, on est sorti pour aller sur les lieux de vie des personnes qui étaient confinées. Par exemple, les collègues assistantes sociales et psychologues sont allés visiter les mineurs non accompagnés confinés à l'hôtel que nous suivons notamment avec Médecins Sans Frontières et qui étaient dans une situation d'isolement épouvantable. Donc il s'agissait d'aller les voir puisqu'ils ne pouvaient plus sortir. Ou par exemple, une équipe du COMED de médecins et de collègues faisant de la prévention sont allés assurer le suivi médical avec une autre association dans un des centres qui a été ouvert pour les personnes touchées par le Covid, pour les personnes positives, précaires, et qui n'avaient pas d'hébergement et qui se sont retrouvés pendant quelques semaines dans des lieux d'hébergement, mais sans non plus possibilité de sortir et pour lesquels il y avait des besoins de santé importants.
À Novès, plusieurs études ont montré une surmortalité durant l'épidémie concernant les départements de la région parisienne, exemple en Seine-Saint-Denis. Alors est-ce que cette mortalité a beaucoup touché les immigrés et les réfugiés arrivés récemment ?
Aussi. Donc aussi et beaucoup pour les raisons qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est les personnes qui, enfin, elles comptent parmi les personnes qui sont en situation de plus grande vulnérabilité sociale, dans des conditions d'hébergement ou de non-hébergement tellement catastrophiques. Il faut savoir que au COMED, sur les 6 dernières années, les patients qu'on recevait, ils étaient très rarement sans abri. Ils étaient très souvent sans domicile fixe, mais très rarement sans abri. On est passé à près de la moitié des personnes en consultation qui ne savent pas où dormir ce soir, qui vont dormir à la rue, au SAMU social quand elles arrivent à trouver une place. Et ça touche de manière indistincte des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes handicapées en fauteuil, des enfants, des mineurs. La situation est devenue absolument catastrophique. Et pour celles qui sont provisoirement hébergés dans des dispositifs, par des associations, par les services de l'État. Ce n'est malheureusement pas toujours dans des conditions d'espace satisfaisantes. On a en tête, par exemple, des solutions de gymnase pour, dans un premier temps, accueillir celles qui sont dans des campements dans la rue, mais dont on sait qu'à la fois c'est mieux en termes de protection et de sécurité, mais c'est pas forcément terrible en termes de prévention du Covid.
Est-ce que vous estimez, Arnaud Weiss, que les pouvoirs publics ont aidé suffisamment ces populations immigrées ou réfugiées arrivées récemment, ou ont-elles été livrées quand même à elles-mêmes un peu durant cette crise sanitaire ?
Malheureusement, c'est encore une troisième réponse que je vais vous faire, c'est-à-dire que pour les demandeurs d'asile, pour les étrangers en séjour précaire, pour les étrangers malades, au sens des personnes ayant une maladie grave, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est encore aggravée depuis un an, notamment, puisque c'est notre domaine au COMED, en matière d'accès aux soins, d'accès à la protection maladie. Le gouvernement a décidé il y a quelques mois de restreindre encore l'accès à la sécurité sociale et à l'aide médicale d'État, qui renforce énormément les obstacles, tant pour les personnes concernées que pour les soignants, pour pouvoir les soigner, puisque à l'heure actuelle, il faut désormais attendre souvent plus de 6 mois pour un demandeur d'asile pour avoir la sécurité sociale ou pour une personne relevant de l'aide médicale d'État pour avoir des droits ouverts. Donc ça a au contraire, malheureusement jusqu'à présent, renforcé les obstacles. Et puis on l'a dit d'un mot tout à l'heure, mais toutes les démarches administratives, juridiques, les papiers, le renouvellement des papiers, tout ça a d'autant plus bloqué que beaucoup de services de l'administration étaient fermés, que la période de dématérialisation des démarches va toucher en particulier les personnes précaires qui n'ont pas les outils techniques et qui n'ont pas toujours la maîtrise de la culture administrative, sans compter que, par exemple, pour la demande d'asile, on atteint une situation catastrophique parce que beaucoup de personnes ne peuvent plus pratiquement prendre un rendez-vous pour déposer une demande d'asile tellement les dispositifs d'accueil sont saturés et on a des patients, nous, qui viennent tous les jours au COMED 20 jours de suite pour téléphoner, pour essayer de trouver un rendez-vous pour commencer leur demande d'asile et qui ne peuvent pas.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à Nadir Djennad pour cette émission donc, que vous avez préparée. Merci à vous, Arnaud Weiss. Je rappelle que vous êtes directeur général du COMED. Jean-Oscar Macasso, vous êtes ethnopsychologue. Vous êtes directeur de l'association Maison Sounda Takeita qui aide également les migrants. Merci à vous également au téléphone d'Africa Radio, Célina Omar-Barr, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des Sénégalais de la diaspora. Cette émission sera téléchargée dans quelques heures sur les réseaux de la radio africaine et on se retrouve jeudi pour notre prochain rendez-vous santé. On se retrouve dans un instant avec l'info en direct de Dakar. Dans un instant.